Tournez la page, votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Eh oui, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre émission littéraire sur votre radio. Et si vous prenez l'antenne à l'instant, bienvenue sur votre radio. Je reçois aujourd'hui Ismaël Wolfaden. Bonjour Ismaël.
Bonjour Mathieu.
Alors, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, on va dire, puisqu'il est aussi auteur, il est musicien et il est aussi comédien. Je ne me suis pas trompé.
Tout à fait, c'est ça.
Voilà. La matière principale, il n'y en a pas une qui surprime un peu les autres, non ?
Oui et non, c'est-à-dire ça fluctue selon les années, puisque oui. Voilà, il y a des années plus comédien, des années plus musicien, des années plus écrivain. Voilà, c'est très.
Alors, on va commencer par l'écriture. Alors, quand avez-vous commencé à écrire ?
Alors ça remonte à il y a très longtemps, parce que quand j'étais enfant, je voulais être écrivain.
Déjà ?
Oui. Je voulais être chanteur et écrivain quand j'étais enfant. Après être devenu adolescent, je voulais devenir acteur et scénariste. Mm-hmm. Et le destin a fait que je suis tombé dans la musique, puisque j'ai donné mon premier concert à l'âge de 15 ans.
Ah oui ?
Et après, ça y est, j'y ai tellement pris goût que j'ai voulu faire que ça. Et c'est comme ça que j'ai été musicien pendant 45 ans. Donc j'étais auteur, puisque j'écrivais mes chansons.
Ah, donc compositeur aussi.
Voilà. Et d'accord. Je continuais d'écrire à côté de ça mes textes, des nouvelles ou des scénarios.
Donc parolier-compositeur, en fait.
C'est ça.
Voilà, le vrai terme.
Je suis auteur-compositeur, éditeur, interprète.
Tout. C'est formidable. Bon, on va revenir au livre. Donc, le premier livre, il est paru quand ?
Le premier livre édité, il est paru en 2022. Le deuxième, en 2024. J'ai des textes qui sont édités chez des auteurs particuliers depuis quelques années aussi. D'accord. Et puis, là, il y a un prochain projet à venir, peut-être 2026.
Alors, on va commencer par le premier en 2022. C'était quel thème ?
C'est un recueil de poésie chansons,
la poésie,
et avec une nouvelle très particulière, très onirique, un peu d'inspiration messianique, enfin christique. Voilà, c'est un univers très particulier et elle a une partie des poésies. En fait, la moitié du livre traite un peu de la Nouvelle-Calédonie où j'ai habité pendant très longtemps.
Tout le soleil.
Il y a beaucoup de poésie de là-bas. Mmh. La nouvelle même traite de la coutume kanak. Voilà. Mmh.
Ouais. Et donc, ce livre a été diffusé en librairie grande surface,
il est toujours
en vente, d'accord.
Il faut le commander, il s'appelle Poésie nomade et autres histoires.
Ah bah c'est bien ça comme titre en plus, hein. C'est sympa, un peu de poésie dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Hein.
Tout à fait, oui, hein, c'est de l'actualité. Ouais.
Donc, et ensuite on a eu donc le suivant en 2020.
Oui, il est sorti en 2024.
24, c'est pas vieux.
Non, c'est pas vieux, c'est assez récent.
Et c'est sur quel thème ?
Alors là, c'est complètement différent, ils ont mis ça dans la case essai, je sais pas si je l'aurais mis dans la case essai, moi, de mon fait, mais en fait ça s'appelle Scan, S-K-H-A-N. Et Tribulation d'un artiste engagé et underground, c'est le titre complet.
Oh là, c'est long, je veux dire.
Oui, mais ça aurait dû être plus long, mais on l'a rétréci. Oui.
Commercialement, ça fait un peu long, en vrai.
Mais oui, Scan, en fait, c'est la biographie d'un groupe de musique qui a eu son heure de gloire dans l'underground dans les années fin 80, 90. Mmh. Qui a existé pendant plus de 10 ans, qui a tourné vraiment beaucoup en Europe, mais même dans le monde, en fait, et qui a sorti 5 CD. Et c'était, en fait, l'occasion de dévoiler un peu les coulisses du monde de la musique en France, de l'industrie de la musique, et en même temps de pédagogiquement montrer la bascule qu'on a vécue au niveau de la musique depuis les années 2000. Parce qu'on assiste à un changement complet du monde industriel et musical à partir des années 2000, c'est vraiment la bascule. Et c'est pour ça que le titre complet, ça a failli être de la bascule du second ou troisième millénaire, ce qui faisait vraiment un très long titre, Scan... Tribulation d'un artiste engagé et underground du second au troisième millénaire.
Oui, ça fait long. Oui.
Mais voilà, c'est une sorte de compilation qui a mis plusieurs années à se créer. Parce que au départ de ce projet, c'était un peu le compte-rendu comme un capitaine de bateau, le compte-rendu de chaque concert d'une tournée, en fait.
Mais de toute façon, comme toute biographie, il faut des recherches, on ne fait pas n'importe quoi non plus.
Ah,
donc,
oui,
il faut vraiment connaître parfaitement le sujet, donc c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Exactement.
Voilà.
Donc, non, puis surtout, il fallait, je trouve, j'ai mis des années à trouver l'angle d'approche de l'ouvrage, parce que je voulais pas du tout que ça soit autobiographique, puisque moi j'étais impliqué dans ce groupe.
D'accord.
Donc je voulais absolument pas que ça soit autobiographique. Donc je voulais que ça soit une biographie en fait professionnelle au niveau donc du nul univers de la musique. Mais en même temps, je voulais pas que ça soit insipide pour le profane. C'est-à-dire si
un peu interactif, quoi.
Voilà. Si j'avais fait un compte rendu concert par concert, journal de bord du capitaine, ça allait être rébarbatif, en fait.
D'accord.
Donc, il a fallu des années pour que je trouve l'angle, et j'ai trouvé en fait un peu par hasard, parce que j'étais invité au CIFAP, c'est un organisme de formation pour les intermittents, et on m'a invité pour animer dans le module management d'artistes qui dure 3 mois la formation. Et moi, j'étais intervenant pour les élèves, enfin les stagiaires, quoi, pour leur apprendre en fait les coulisses du métier et ce qu'il faut pas faire, les codes pour lancer son projet artistique. Et ça m'a déclenché. Je me suis dit, ah mais voilà, je vais faire un ouvrage un peu pédagogique qui donne des clés. Qui, en fait, c'est tout azimut. C'est-à-dire, celui qui connaît le métier, ben, ça peut lui donner des clés qu'il n'a pas. Le profane, il va découvrir un monde que souvent il ignore. Et puis, ça permet de raconter toute l'aventure, les anecdotes croustillantes d'interviews, de tournées de concerts.
La vie d'un groupe, quoi.
Exactement.
Mmh. Et les coulisses. Et
c'est ça.
L'envers du décor, coulisses. Comme on dit.
Ouais, surtout les coulisses, parce qu'il y a les gens, ils savaient ce qui se passe en coulisses.
Et il est toujours en librairie, en grande surface, oui, etc. Oui, oui. Donc,
plus voilà. Que jamais, parce qu'en plus, le tome 2 est en préparation. En
d'accord. Et donc, ce n'est pas l'auto-édition, hein, c'est avec un éditeur et autres. D'accord.
Oui, alors... c'est Olys Bleu, c'est cette vanne d'éditeur un peu alternatif. Mais là, je suis en train d'envisager le tome 2 ou une reprise, bref, avec un éditeur très sympathique qui s'appelle Les Souffleurs de Verre dans le 28.
Ah oui, c'est marrant comme nom pour un éditeur.
Oui, les souffleurs de verre. Ouais. Et ils ont bien choisi, oui.
Ouais. Et donc, 2 livres seulement, parce que si vous aviez envie depuis très très longtemps, pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire alors, du coup?
Non, j'ai beaucoup de choses dans mes greniers.
Il y a des manuscrits dans les cartons alors.
Oui, déjà, mon premier ouvrage, je l'avais écrit, je devais avoir 13 ans. Donc,
c'est ça.
Il y en a un autre, j'avais écrit, j'avais 16 ans, mais tout ça, c'est resté dans les.
C'était dans la poésie ou c'était vraiment des nouvelles?
Non, le premier, quand j'étais jeune, là, c'était vraiment un ouvrage de science-fiction.
Ah, de science-fiction, mais non, c'est différent.
J'adorais
là.
La science-fiction quand j'étais enfant.
D'accord, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs.
Après, le deuxième aussi. Le troisième, quand j'étais ado, c'était beaucoup plus, on va dire, sociétal. Voilà, un mélange un peu onirique, sociétal, une peinture de la société, bref.
Alors, ce qui marche beaucoup chez les jeunes, c'est l'heroic fantasy en ce moment.
Ouais, j'ai cru comprendre.
Ça marche pas mal, là, la bande féerique, les choses comme ça et autres.
Tout à fait.
Voilà. Bien, eh bien, écoutez, on va faire une petite pause musicale.
Déjà
avec notre ami Claude François et Magnolia Forever.
Ça aussi, ça.
Comment faire?
La page, votre émission littéraire
sur REC 103.7,
animée par Mathieu Noiroux.
Et oui, et nous retrouvons donc Ismaël pour continuer. Alors, on va peut-être prendre maintenant la partie musicale.
D'accord.
Musicale. Donc la musique, ça a commencé aussi de bonne heure, en même temps que l'écriture, je crois, on l'avait dit tout à l'heure.
Oh oui, quasiment. Ouais.
Quasiment.
Ouais, même peut-être avant, parce que quand j'avais 3 ans, j'ai dit quand je serai grand, je serai chanteur.
D'accord. Mais alors avant, c'était plus en étant chanteur ou musicien au départ?
Les deux, je chantais beaucoup. J'ai fait du piano très jeune au conservatoire avec ma mère. Je faisais 4 mains avec ma mère.
Ah oui, quand même.
Et puis, ouais, c'est comme ça.
Et alors, la première.
J'étais vraiment un fou de musique, en fait.
La première composition, vraiment, paroles et musique, en quelle époque, ça?
Je devais avoir 10 ans, j'ai oublié.
Ah, quand même, déjà.
Oui, je
10
m'amusais
ans.
Sur le piano, ouais, j'aimais bien. Hein.
Ouais.
Mais après, sinon.
Mais concrètement.
Concrètement, oui.
Concrétiser un album ou un CD.
Ouais, mon premier album, c'est. Je devais avoir 18 ans.
18 ans.
C'est mes premiers morceaux, vraiment. Parce qu'en fait, je suis le premier au monde aussi, il faut le préciser, à avoir. D'abord, je suis tombé fou du reggae quand j'étais adolescent.
Ouais.
Je suis parmi les précurseurs du reggae français.
Mmh.
Et il y a un documentaire qui en parle. Hein. Et en même temps, j'ai un aspect où j'ai grandi dans la musique orientale. Donc, je suis fou d'un instrument qui s'appelle le saz. C'est un instrument en Europe de l'Est et Turquie. Et je suis donc pendant très longtemps, j'ai pratiqué mes deux passions séparément. C'est-à-dire j'avais l'intimité chez moi, voilà, le saz et tout ça, et puis je faisais les concerts de reggae. Et je suis le premier au monde dans les années 90 à avoir marié les deux cultures. Et j'ai eu, alors c'est très important ce que je vais préciser, c'est que à l'époque j'ai vu arriver la techno et la musique moderne, la house music, tout ça, avec un très grand reproche. C'est qu'ils utilisaient la musique traditionnelle au service du moderne. Donc moi, j'ai eu à cœur de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de marier les deux cultures, le reggae et le saz. Mais si on enlève le reggae, il reste de la musique traditionnelle saz complètement intègre, et vice-versa. C'est-à-dire si j'enlève le saz, il reste un reggae intègre. Parce que j'étais découragé de voir la techno. D'ailleurs, il y a eu des procès, hein, quand ils se sont amusés, des réalisateurs, à prendre des morceaux de musique traditionnelle sacrée sur des scènes de viol, ça a été en justice, des choses comme ça. L'Occident s'amusait trop à piocher comme ça, des trois notes par-ci, trois notes par-là, dans la musique traditionnelle, sans aucune connaissance ni respect de la valeur de ce qu'ils prenaient, en fait.
On a vu, fin des années 70, l'arrivée du disco, qui avait quand même beaucoup influencé les choses. Et après, on peut dire que dans la variété des années 90, il y a eu beaucoup de remix, des choses comme ça, où on repiquait les trucs des années 80, il y a eu une panne de création. On refaisait du réchauffé avec des remixes qui duraient 5, 6, 8 minutes. Et c'est vrai qu'on reprenait les choses des années 80.
J'en parle dans mon livre, ça. C'est-à-dire, voilà. c'est parce que c'est la fameuse bascule dont on parlait tout à l'heure, du second au troisième millénaire. C'est que, en fait, on a perdu les anciens producteurs qui étaient vieux, qui sont partis à la retraite, tout ça, et qui, eux, étaient des mélomanes. Eux circulaient dans le métro, tout ça, trouvaient des talents et les produisaient. Et ils ont été remplacés par des jeunes aux dents longues et qui sortaient des écoles de commerce et qui voulaient plus s'embêter. Et ils ont créé eux-mêmes des talents. Et on a beaucoup ça. Je résume, mais c'est grosso modo, c'est un peu ça.
Il y a aussi eu, dans les années 2000, le rachat de beaucoup de labels entre eux, etc., qui ont quand même beaucoup bouleversé le monde musical.
C'est ça, c'est que le commerce a vraiment pris le pied sur la culture dès les années 90.
Les petits labels ont disparu, c'est devenu des gros trucs. Sony, machin, etc. Et puis après est arrivé Internet. Mais bon, ça a quand même fait du mal aussi à l'industrie, le piratage et tout, l'industrie musicale quand même aussi.
Oh, j'irai pas jusque là, hein, parce que
quand
ils disent que ça leur fait du mal, moi ça me fait doucement rigoler. J'en parle dans mon livre.
Il faut absolument se procurer. Alors, on le rappellera les titres des livres à la fin. Le premier CD, ça a été dans quelle année alors?
Alors d'abord à l'époque c'était pas le CD, c'était les cassettes.
Oui, les cassettes, oui effectivement.
Voilà, donc ma première cassette de mémoire c'est 87. 1987, c'est ça, cassette de musique traditionnelle.
D'accord.
Après, il y en a eu une deuxième quelques années après, une troisième quelques années après, et après on arrive au groupe Scan qui est né dans la fin des années 80, début 90, et le premier CD c'était 95.
Ouais,
c'était... Et après il y en a eu 5 CD jusqu'à 2002.
Alors là j'en ai un en main là avec Ethnic Blues, c'est le dernier celui-là.
Le dernier, ça, 2014, oui, c'est ça. Ah ben, c'est peut-être bien le dernier, oui, en effet. Oui, c'est le dernier, ça.
On peut se le procurer aussi partout.
Voilà, il suffit de cliquer Wotan Ethnic Blues sur Internet.
Voilà, on rappellera tout ça, où se procurer les livres, où se procurer les musiques, etc. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, surtout le monde musical. Hein. On va faire une autre petite pause avant d'attaquer la partie comédien.
Ok.
Je vous propose.
Mais, par contre, on n'a pas fini avec la partie musicale.
Ah.
Parce que mon premier livre, Poésie nomade et autre histoire, on l'a mis en scène.
Ah oui, d'accord.
Avec une chanteuse, une excellente chanteuse. Parce qu'il faut savoir que cette chanteuse a fait aussi les aquarelles, enfin, les illustrations du premier livre. Et on a monté un spectacle qui tourne assez régulièrement, qui s'appelle Pastoralis. Et notre dernière date, là, c'était à Coué, en mars. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit spectacle parce qu'il met il met en scène en fait l'écrit, les poésies, il les met en scène. Ouais. C'est un parcours un peu, il y a eu 10 poésies qui ont été sélectionnées qui forment une sorte d'histoire en fait. Et la chanteuse, elle danse aussi, on intercale ou en même temps, on joue musique, guitare, chant.
On en parlera s'il y a des dates de prévues pour la rentrée par exemple. On en parlera à la fin de l'émission puisque la petite partie agenda de l'auteur. Là je vous propose un duo, j'aime beaucoup les duos, je vous propose Michel Berger, France Gall avec Laissez passer les rêves, un peu de rêve, ça fait pas mal.
Votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Laissez passer les rêves. l'émotion vaut bien la révérence, sinon la préférence. Laissez passer.
La page. Votre émission littéraire animée par Mathieu Noiraud.
Et oui, après ce duo Berger-Galles, nous allons sur les 5 dernières minutes de l'émission déjà. Ismaël, ça passe vite. Alors on va s'écouter peut-être un petit morceau de ta composition tiré du dernier CD. On va s'écouter ça tout de suite. Voilà, si cela marche, on va essayer d'écouter tout ça. Ça rame un peu. Bref, la partie comédien, on va en parler aussi, hein, faut pas l'oublier. Voilà, on va. Non. Bon, on va. Un petit problème là, la pub, bien évidemment. Non, bon bah écoute, ça ne fonctionne pas, comme par hasard. On va y réessayer, voilà. Alors, la partie comédien, donc tu es comédien aussi.
C'est ça.
Et donc tu m'as dit tout à l'heure que tu allais tourner dans un prochain film d'un grand metteur en scène, d'après ce que j'ai compris.
Non, le tournage a été déjà fait, le film va bientôt sortir, oui.
Ah, alors c'est quel? Alors vas-y, parle un petit peu, alors c'est quel metteur en scène?
J'ai un mini-rôle dans le prochain film de Luc Besson qui s'appelle Dracula Love Story.
Ouais, ah bah voilà, c'est pas rien quand même, Luc Besson.
Oui, c'est vrai, c'était sympa.
Ouais.
Et voilà donc.
Et avant c'était les petits rôles dans des petites séries, des choses comme ça.
Oui.
Pas de la figuration,
là,
des rôles.
Là, je reviens de Paris, donc là par exemple j'étais en figuration là à Paris pour 3 dates. Il y avait Rip avec Claudia Tagbo, un film qui va sortir. bientôt, qui s'appelle Le Diplôme. Et puis la dernière chose que j'ai tournée, une série Astrid et Raphaël.
D'accord. Ah oui.
Donc je fais beaucoup figuration, silhouette, et des fois j'ai des petits rôles. Voilà,
c'est oui, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on commence, hein.
Oui.
Il y a beaucoup de grands acteurs qui ont commencé par des séries, hein. Regarde Bruce Willis, tout oui. un tas de choses, ils ont commencé.
J'ai pas tellement. En fait, je suis très dans l'écriture. Hein. Je fais beaucoup. On m'appelle beaucoup là. Des instituts parisiens m'ont appelé dernièrement pour œuvrer à un atelier d'écriture. Donc je suis beaucoup dans l'écriture, mais en fait, pour ne rien vous cacher, la comédie, c'est quelque chose que je voulais faire depuis l'adolescence. Et donc, j'ai eu la chance d'être dans la même classe que Jeanne Balibar. On a fait notre première pièce de théâtre ensemble avec Jeanne Balibar. Elle avait 14 ans, j'en avais 16. Devant 1000 personnes, ça a fait un tabac. Et après, ce qui s'est passé, c'est que Jeanne Balibar, elle a continué et elle est toujours comédienne aujourd'hui. Moi, par contre, j'ai bifurqué pendant 40 ans dans la musique. Et donc, en fait, je suis revenu à petit rôle figuration depuis 2018. Et c'est vrai que j'en fais beaucoup parce que je m'amuse beaucoup.
Eh bien, écoute, j'ai réussi à avoir un petit morceau de ta musique, là. On va s'écouter ?
Très bien. Alors quand même, il faut que je partage ce moment avec les auditeurs, parce que pour les auditeurs qui ne nous voient pas, en fait, comme il y a eu un petit problème technique pour la diffusion de ce morceau, donc vous avez Mathieu, votre cher animateur, qui tenait son téléphone et devant oui. le micro, donc je ne sais pas du tout quelle est la qualité que vous avez pu recevoir, mais en tout cas, c'est le CD, c'était Wotan Ethnic Blues, et c'était un extrait d'un morceau qui est très apprécié dans notre spectacle Pastoralis, le fameux spectacle au service de mon premier livre, dont je parlais tout à l'heure, avec la chanteuse Send, chanteuse et graphiste fascinante. Et Pastoralis s'appelle le spectacle, si vous voulez nous trouver sur les réseaux.
Oui, justement, ça serait bien de dire quelle adresse.
Adresse. Ah bon, il faut taper Pastoral apostrophe
voilà. Ah oui, faut le dire.
Voilà, Pastoral apostrophe IS et vous nous trouverez sur Instagram, YouTube.
Et pour les CD.
Les CD, il faut taper soit Scan, S-K-H-A-N, soit Wotan Ethnic Blues, comme on vient de dire, soit Alev Electric, Alev... voilà, j'ai fait au moins 6 ou 7 groupes, donc ça va être un peu long si on détaille.
D'accord, non mais déjà que les gens aient quelque chose.
Mais voilà. En fait, si les gens tirent Scan, Saz, Ismail Scan, après vous tirez la ficelle et tout va venir.
D'accord.
Et mon nom d'écrivain, par contre, mon nom d'écrivain, c'est Ismail Wolf.
Voilà. Voilà.
Et c'est important de le préciser.
Pas de salon en vue pour la rentrée.
Non, là, j'ai beaucoup levé le pied sur les salons parce que en raison des beaucoup de tournages, beaucoup d'ateliers d'écriture.
Ouais. Comptez reprendre pour la rentrée ou...
Alors dès que peut-être là, quand on dit rentrée, ça sera peut-être pas septembre, ça sera peut-être plutôt à partir de l'année 2026.
D'accord. Mmh. Ok. Bah il y a celui de Chauvigny qui va arriver en 2026. Oui. Alors ça sera en septembre 2026, fin septembre 2026.
Et bah, très bien, ça sera peut-être conjoint avec la sortie du tome 2 de Scan parce que c'est ce qui s'est passé. Le tome 1 a bien marché. Et les gens ont envie d'en savoir plus.
Ben voilà.
Et on m'a réclamé un tome 2 qui est déjà en préparation.
Très bien. Et pour le spectacle, pas de date prévue là, pour l'été ou la rentrée ?
Non, pour l'instant, il n'y a pas
de date prévue. Bien. Ouais. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de notre émission. Tournez la page. Ce fut un plaisir de vous recevoir.
Plaisir
et
partagé.
C'est toujours intéressant d'avoir des auteurs, mais aussi des multicasquettes, parce que musicien, comédien, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc.
Oui.
C'est pas donné à tout le monde.
À son instrument, j'aurais dit.
Oui, 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 tout à fait. J'ai failli le faire, mais bon, j'ai dit après, ça va faire un peu trop jeu de mots
facile. C'est la mienne, c'est copyright.
Et donc, c'est la dernière de tourner la page. Je rappelle que vous pouvez écouter cette émission sur le site en podcast, bien évidemment. Et puis, elle sera rediffusée dimanche prochain de 10h à 10h30. Et nous, on se retrouvera pour une nouvelle émission de Tourner la page le 3 septembre prochain. Et oui, c'est les vacances. Donc, je vous donne rendez-vous en septembre. Bonne fin d'après-midi à tous. Et merci d'être fidèle sur notre belle et grande radio REC 103.7 FM. Bonne fin d'après-midi à notre écoute.
Tournez la page. Votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.